pain de vie. On avait vu « Je suis la lumière du monde ». On avait vu « Je suis la porte ». Et on avait vu « Je suis le bon berger ». Et aujourd'hui, on va voir « Je suis la résurrection et la vie ». Ça se trouve dans Jean 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jésus a prononcé ces paroles dans un moment de tristesse. On se trouve à Béthanie. C'est la tristesse, c'est les larmes. Lazare est mort. Lazare était malade. Et ses sœurs, Marie et Marthe, ont fait appel à Jésus. Parce qu'elles se sont dit que Jésus pouvait faire quelque chose. Mais Jésus, lui, il savait ce qu'il allait faire. Alors, il n'est pas parti tout de suite. Lorsque Jésus arrive à Béthanie, Lazare était déjà mort depuis bien longtemps, 4 jours. 4 jours, ça commence à sentir. Et Marthe lui dit avec beaucoup de peine et de chagrin, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ça, on voit la foi de Marthe déjà. Parce qu'il dit, « Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. » C'est une foi en Jésus déjà, en disant que, en croyant que Jésus pouvait faire quelque chose pour sa sœur, pour son frère, pardon. Mais elle ne savait pas ce que Jésus allait faire. Elle ne savait pas comment Jésus interviendrait pour Lazare. Et à ce moment-là, Jésus lui dit que son frère va ressusciter. Mais Marthe croyait en Jésus. Marthe savait qu'il y aurait une résurrection. Comme nous, nous savons qu'il va y avoir une résurrection. Mais Marthe croyait que la résurrection serait à la fin des temps. Donc elle dit à Jésus, « Oui, je sais que mon frère va ressusciter au dernier temps. » Et Jésus reprend et dit, « Ton frère ressuscitera aujourd'hui même. » Je ne sais pas si on se met à la place de Marthe. Jésus nous dit, son frère va ressusciter maintenant, est-ce qu'on va le croire? Ça va être compliqué, hein? Maintenant qu'on a toute la parole de Dieu, on peut peut-être dire, c'est vrai. Mais à l'époque, là, à mon avis, dans sa petite tête, là, Marthe, elle ne croit pas que son frère va ressusciter aujourd'hui même. Jésus, en disant à Marthe que son frère va ressusciter aujourd'hui même, lui donne un espoir. Et parfois nous avons de l'espoir, mais parfois on nous donne le mauvais espoir aussi. On nous fait croire que des choses vont arriver alors que ça n'arrive pas et ça ne va pas arriver. Mais Jésus lui donne cet espoir que son frère va ressusciter. Et quand Jésus dit « Je suis la résurrection », il dit « je suis une personne ». La résurrection, c'est une personne. La résurrection, ce n'est pas quelque chose d'autre que Jésus, puisque lui-même, il dit « Je suis la résurrection ». Ça veut dire que Jésus, quand il dit je suis la résurrection, il réaffirme encore sa divinité. Qui ressuscite les morts si ce n'est Dieu? Donc Jésus a le pouvoir, il veut dire qu'il a le pouvoir sur la mort. Non seulement sur la mort, mais sur la vie aussi. Et qu'il allait ressusciter Lazare. Et c'est ce que Jésus a fait ce jour-là. La résurrection, c'est la réponse déjà à une mort spirituelle. Si on regarde bien l'ordre dans la phrase de Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Il ne dit pas, je suis la vie et la résurrection. Ce serait mieux, ce serait plus logique de dire, je suis la vie et la résurrection. Parce qu'on vit, on meurt. Et après, on ressuscite. Mais lui, il dit, je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire, cette résurrection, c'est d'abord un réveil de notre vie, un réveil spirituel. Il nous réveille de la mort spirituelle. Parce que pour expérimenter la plénitude de Dieu, il faut d'abord que Jésus, que Dieu nous révèle, que Dieu nous réveille de notre mort, de tout ce qui nous tue et de notre péché, désespoir, notre amertume. Il faut que le Seigneur nous restaure avant que nous ayons la vie. Et on voit que quand Jésus a parlé à Lazare, qui était au tombeau, il lui a dit, sors. Le mort a entendu cette voix. Eh bien, c'est la résurrection, c'est ça pour nous. Nous sommes morts spirituellement, on entend la voix de Dieu, il nous dit, sortez du tombeau maintenant. C'est cette voix qui pénètre au plus profond de notre cœur, de notre âme. Mais la résurrection, c'est si nous croyons à cette résurrection, si nous sommes ressuscités, comment vivons-nous cette résurrection? Comment marchons-nous? Parce que nous avons entendu, il nous a réveillés. Et si on croit à cette résurrection, comment vivons-nous? Comment marchons-nous? Pourquoi Jésus dit qu'il est la résurrection? Parce que Jésus donne une nouvelle vie à ceux qui sont morts. Et c'est ce qui s'est passé avec nous, avec chacun d'entre nous ici. Nous avons une nouvelle vie. Parce que nous avons entendu un jour Jésus nous dire de sortir du tombeau. Parce qu'il a dit à Lazare, sors! Jésus donne une nouvelle vie. Celui qui croira en moi vivra. Mais celui qui ne croit pas mourra aussi. Et la parole dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, c'est pour ça que, avec cette résurrection, on passe de la mort à la vie. Et c'est ce qui s'est passé avec chacun d'entre nous. Maintenant, il dit, je suis la vie. Quelle vie? Ce n'est pas une vie banale, c'est une vie d'excellence. Déjà ici et pour plus tard. Ce n'est pas la vie qu'on vit maintenant, comme on pourrait dire, vie biologique, mais c'est la vie spirituelle. C'est une vie qui, elle est invincible. Cette vie éternelle que le Seigneur nous donne, c'est une vie invincible. Quand on a cette vie, on peut mourir physiquement. C'est ce qui va se passer avec tout le monde. Il y a deux, je crois, qui ne sont pas passés par cette mort. Ils sont Enoch. Les deux qui ne sont pas passés par la mort. Mais tous, nous devons passer par là, sauf si le Seigneur arrive entre-temps. Donc cette mort devient simplement une sorte de passage. On change de vêtements. Celui qui croit au Fils, à la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie. Mais qu'est-ce qu'il verra? La colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu va demeurer sur lui. Selon le Deutéronome. Selon Jean, pardon, 3, 36. Quand nous croyons, nous, en Jésus, nous commençons une nouvelle vie avec lui. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, si je frappe et que tu entends ma voix, faut pas endurcir ton cœur, parce que je te propose la vie éternelle. Jésus nous déclare dans cette phrase aussi que l'espérance se trouve en lui, en fait. Et c'est lui seul qui peut proclamer ça. Personne d'autre ne peut proclamer que je suis la résurrection et je suis la vie. Pourquoi? Parce que Jésus, il possède la vie en lui-même. Parce que lui, c'est la vie, il possède la vie en lui-même. Et quand Lazare était dans le tombeau, Jésus a dit à Lazare de sortir. Il y a eu l'intervention de Jésus. Jésus était homme à ce moment-là. Il a eu l'intervention de Jésus. Mais quand Jésus est mort, il n'y avait pas un homme pour intervenir, pour le sauver, pour le sortir du tombeau. Et c'est là qu'on voit que il y a eu l'intervention de Dieu et à l'intervention dans la mort de Jésus pour enlever Jésus du tombeau, il y a eu l'intervention de Dieu, il y a eu l'intervention de Jésus lui-même. Ça paraît bizarre, mais il y a eu l'intervention du Saint-Esprit aussi. Le Père a ressuscité Jésus. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dieu l'a ressuscité. Et quand je dis Jésus lui-même s'est ressuscité, ça paraît bizarre de dire ça, mais Jésus, les pharisiens et les sadducéens, ils voulaient détruire le temple. Et Jésus a dit, si vous détruisez ce temple, en 3 jours, je le relève. Mais il ne parlait pas du temple, il parlait de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ce cas? Ben, dans le tombeau. Jésus dit aussi, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Si Jésus est ressuscité, il a repris sa vie. Donc, le Père l'a ressuscité, mais lui aussi, il a participé. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus avait le pouvoir de reprendre sa vie. Le Saint-Esprit aussi a ressuscité Jésus. On lit Romains 8, verset 11. Il dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit était là aussi. Donc on voit dans cette résurrection, il y a eu la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, dans l'autre verset, Jésus dit, je suis la résurrection à la vie. Celui qui croira en moi aura la vie, même s'il est même étant mort. Mais il a rajouté une petite phrase derrière. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Marthe? Crois-tu cela? Et nous maintenant, est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit ça? Parce que souvent, dans le monde, on ne parle pas de chrétiens forcément, mais dans le monde, on ne croit pas ça. On ne croit pas à la résurrection. Après la mort, c'est les petits bêtes, c'est ce qu'on dit chez nous. Après la mort, c'est petits bêtes. Ça veut dire les petites vertes, oranges, et puis basta. Mais Jésus, il est réellement ressuscité. Hein? Et ce n'est pas une fable. C'est la réalité. Parce que la Bible nous dit qu'après la mort de Jésus, il est apparu pendant 40 jours. Et c'est ce 40 jours qu'on a maintenant de la Pâque. Jusqu'à ce jeudi dernier, ça nous fait les 40 jours. C'est le moment où Jésus monte. Donc la Bible nous dit que pendant 40 jours, Jésus est apparu. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlons des choses qui concernent le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, c'est Paul, versets 3 à 7, qui explique encore mieux. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. C'est beaucoup, hein? C'est des preuves que Jésus était vraiment vivant. Mais quand Paul dit qu'il est apparu d'abord à Céphas, souvenons-nous bien qui était Céphas. Qu'est-ce que Céphas avait fait? Céphas, c'est Pierre. Pierre avait renié Jésus. Jésus l'a rétabli. Et Jésus va vers qui en premier? Puis, il est apparu aux autres et plus à plus de 500 personnes. Donc, on ne peut pas dire que c'est une fable, que à l'époque, il n'y avait pas le clonage et on ne pouvait pas dire que c'était un clone. Et il n'avait pas de jumeaux. Donc, ce n'est pas le jumeau de Jésus, c'est bien lui qui est apparu, vivant. Mais avant sa crucifixion, Jésus, il avait réconforté ses disciples parce qu'il leur avait dit qu'il allait partir. Et les avait réconfortés pour leur dire qu'il part, mais il va partir pour réserver une place pour nous, pour ses disciples. Et il dit que dans la maison de son père, il y a plusieurs demeures. Il dit, si ce n'était pas vrai, il n'aurait pas dit cela, parce que Jésus, c'est la vérité. Mais Jésus savait qu'après la résurrection, il allait monter vers son père, parce qu'il est venu accomplir une mission sur la terre. La mission étant accomplie, il n'avait plus rien à faire sur la terre parce qu'il est venu d'en haut et il retourne là où il était avant. Mais il a réconforté ses disciples en leur disant qu'il va revenir aussi. Et en leur disant surtout, je m'en vais, mais je ne vous abandonne pas. Je vais vous envoyer un consolateur. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et Eric l'a dit tout à l'heure, et il a parlé de ce week-end. Je me suis retourné, j'ai dit à Janine, regarde, c'est dans mon truc. Dans mon message. Il a parlé de ce week-end, que les gens profitent d'un long week-end. C'est vrai que c'est un superbe long week-end. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas du bien. Hein. Ça fait du bien aussi d'avoir un long week-end pour voir la famille, pour se bouger. Mais seulement, les gens profitent de ce week-end sans savoir c'est quoi exactement ce week-end, ce jeudi. Ils font le pont. Et je vous garantis qu'on demande à n'importe quel enfant, c'est quoi, pourquoi il s'est férié, parce que les enfants disent, il n'y a pas école, c'est férié. C'est la seule chose que les enfants retiennent. On leur demande, c'est férié, mais c'est pourquoi c'est férié? Je vous garantis qu'il y a beaucoup qui ne sauront pas pourquoi c'est férié. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas l'importance à ce jour. Et pourtant, c'est un jour extraordinaire, c'est un jour important qui, la suite dépend de ce jour-là, en fait. Parce que Jésus a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Mais s'il ne monte pas, il dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que je vais vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, qui vous conduira, qui vous annoncera les choses qu'il a entendues. Mais qu'il a entendues de qui? De Dieu et de Jésus. L'ascension. Luc 24, 50. Il les conduisit vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Vous voyez, c'est ça, c'est le dernier geste que Jésus a fait sur la terre. Il a béni. Après la mort, la souffrance, à la croix, le dénouement, c'est l'ascension. L'ascension, c'est aussi important que la Pâque, que Noël, Pentecôte. C'est aussi important. C'est le moment où Jésus rentre dans la gloire de son Père. Il a fini, il monte sur les nuées. Luc 24, 50 à 53. Il les conduisit vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Béthanie. Qu'est-ce qui s'est passé à Béthanie avant? C'est Lazare. Où est-ce que Jésus les amène? À Béthanie. Lieu de souffrance. C'est là où il y avait la souffrance, les pleurs. Et c'est là où Jésus a dit, je suis la résurrection aussi. Et où est-ce qu'il les emmène? À Béthanie. C'est comme si Jésus dit, c'est la boucle bouclée. En fait. C'est là où Jésus, il a pleuré. Et c'est là aussi il triomphe de la mort. C'est là où il a triomphé de la mort. Et c'est là où il s'en va. Et c'est vrai que pour nous, notre ascension, ça peut être aussi là où nous avons connu des souffrances. Ce n'est pas forcément là où il y a du spectaculaire, parce que là, ce n'était pas du spectaculaire. Nous aussi, notre ascension commence par là aussi, là où il y a les souffrances. Ce n'est pas toujours quand il y a les bonnes choses. Et puis la Bible dit, ayant levé les mains. Vous savez qui est-ce qui faisait ça? Dans l'Ancien Testament, Moïse faisait ça, mais aussi les sacrificateurs levaient les mains. Eh bien, Jésus n'a pas fait ça par hasard non plus. Oui, parfois on lit, mais c'est quand on cherche après, on découvre que il n'a pas fait ça comme ça par hasard. Parce qu'il aurait pu monter et puis... Et il a fait ça. Dans l'Ancien Testament, le prêtre, il levait les mains pour, après avoir offert un sacrifice. Il levait les mains pour bénir le peuple. Bien, c'est ce que Jésus a fait. Le sacrifice, c'est lui. Il l'a fait, le sacrifice. Donc, il lève les mains pour ce sacrifice. Et ce sacrifice n'est plus un sacrifice à recommencer. C'est un dernier sacrifice perpétuel. Il lève les mains. Et après, il s'est séparé d'eux. Après avoir fait l'offrande lui-même comme un sacrifice parfait, il lève les mains vers le ciel qui allait le recevoir. Dans la gloire. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, c'est les hommes qui faisaient ce sacrifice, Aaron, etc. Et puis, il y avait un suivi, c'était Aaron, après c'est son fils, etc., qui faisait le sacrifice. Mais ça, c'était fragile parce que Aaron, s'il meurt, son fils va le remplacer, etc. Le ministère du sacrificateur, c'était temporaire. Mais Jésus, c'est le sacrificateur par excellence. Il est le souverain sacrificateur. Et lui, il demeure éternellement. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, comme le sacerdoce des hommes. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, selon Hébreux 7, 24 et 25. Il a levé les mains. Mais ses mains étaient comment? Ses mains étaient percées. Il dit, je vous montre mes mains aussi, mes mains percées. Il montre le sacrifice qu'il a fait pour que, parce que c'est son dernier jet, pour que ça puisse rester dans la tête des disciples. Il ne cache pas ses blessures. Et il nous dit, je monte au ciel avec le sacrifice que j'ai fait pour vous, avec votre rachat. Maintenant, notre question, il y a toujours une question pour nous, c'est quelle main qui nous dirige? C'est-à-dire les mains percées de Jésus qui nous dirigent et qui nous condamnent parce qu'on ne croit pas, parce qu'on fait n'importe quoi, ou les mains percées de Jésus qui nous dit que c'est notre rachat. Et après, dans ce geste, il y avait une bénédiction aussi, parce que la parole dit, il les bénit. C'est la dernière image de Jésus, de Dieu, que les hommes ont eue sur la terre. Il monte, mais il bénit. C'est extraordinaire, hein? Mais cette bénédiction, c'est une bénédiction sans fin. Puisqu'il dit qu'il est en haut, à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Donc nous sommes toujours sous la grâce de la bénédiction de Jésus. Cette bénédiction, ça ne s'est pas terminé quand il est monté. Il est monté avec la bénédiction, mais il continue de bénir. Nous avons un avocat, Ascension, un avocat auprès du Père. Et c'est vrai que ce dernier geste, nous vivons sous les mains levées de Jésus. Hein? C'est magnifique. Peu importe les tempêtes que nous allons traverser, et c'est sûr que nous allons traverser, c'est sûr que nous en traversons, mais les mains levées de Jésus nous a bénis et nous sommes sous sa bénédiction pour toujours. Je vais terminer bientôt, mais on va voir la joie des disciples aussi. Ça paraît bizarre, hein, qu'on perd un ami, mais on est dans la joie. Si on sait qu'on perd un ami, on ne peut pas être dans la joie. Et la Bible nous dit qu'ils sont dans la joie. Verset 52 de Luc, 24. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans leur temple, louant et bénissant Dieu. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils viennent de se séparer de leur maître. Mais je pense qu'ils se sont souvenus d'une chose, c'est que je vais vous préparer une place. Leur joie, c'est ça. Leur joie, c'est de savoir que vous ne serez pas seuls. Je vais vous envoyer le Consolateur. C'est pour ça qu'ils sont dans la joie. non seulement je vais vous préparer une place, mais il dit, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça qui fait leur joie. Et c'est ça qui fait notre joie aussi. Parce que c'est ça notre espérance. Que le Seigneur viendra un jour et nous serons avec lui pour toujours. Et c'est vrai qu'ils auraient pu regarder le ciel avec nostalgie, hein, avec tristesse, mais ils ont regardé le ciel avec joie. Regardons aussi le ciel avec joie. C'est vrai que ce n'est pas facile tout le temps, mais nous avons cette espérance que Jésus reviendra. Et s'il est monté au ciel, c'est pour nous envoyer le Saint-Esprit aussi. On va terminer. Je disais tout à l'heure que l'ascension, c'est 40 jours après la Pâque. Et s'il n'y a pas l'ascension, il n'y a pas l'Église. Si Jésus ne monte pas, on ne sert à rien là. Il n'y a pas d'Église. Puisque c'est après l'ascension qu'il envoie le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est là que commence l'Église. S'il n'y a pas l'ascension, pas d'Église. C'est pour ça que il faut qu'on fête, qu'on célèbre ce genre de fête. Nous sommes, je parle de l'Église, pas Créteil, hein, l'Église universelle, l'Église en général. On est à fond à Noël. Noël, des petits cadeaux et tout, machin, comme ça. Mais quand arrive Pâques, il n'y a rien. L'ascension, il n'y a rien. Pentecôte, rien. Noël, c'est important parce que c'est Dieu qui descend parmi nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais après, Emmanuel n'est pas resté petit. Il a fait autre chose. Nous, on ne fait pas l'ascension. Jamais on ne fait l'ascension. Pentecôte, on ne fait pas Pentecôte. Et pourtant, sans l'ascension, il n'y a pas de Pentecôte, il n'y a pas d'église. Acte 1, on termine sur ça. Acte 1, 9-10. Après avoir dit cela, il fut élevé, et pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba. Une nuée. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand Dieu apparaissait dans le temple, c'était une forme de nuée. On dit une nuée envahissait le temple. Jésus, il monte sur quoi? Une nuée. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus d'un blanc leur apparurent. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. » Ça veut dire que la même manière que Jésus monte au ciel sur une nuée, c'est de la même manière qu'il va redescendre sur une nuée. Et ça, c'est quelque chose de capital, et ça, c'est quelque chose de vérité, de véridique. Jésus est parti, mais il reviendra. La nuée, c'est le symbole de la gloire de Dieu. Et dernier texte, et c'est sur ça qu'on va clôturer. C'est Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et il dit oui, amen. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire que ceux qui l'ont percé, ils sont déjà morts depuis bien longtemps. Mais ils le verront quand même. Jésus reviendra. Et c'est sûr qu'il reviendra. Il revient bientôt. Amen.